My name Bob, Bob Marley.
Shabba!
There's some good Jamaican ice cream. Sorry for almost knocking your head off back there, but you just can't be walking up on a bitch on the beach.
That's all right, daughter. I was really just trying to protect my spliff.
Now, what'd you say your name was again? Mustafa Marley? Matumbo? What?
Bob Marley. I is a reggae star.
Well, I never heard of you. Must not be that good. But keep working. Who knows? One day you might be as famous as Marlon Jackson.
Me originally was stunned by your beauty, but the fact you no care who I am, I turned me on.
Good, because I was trying not to say nothing, but you need to comb that nappy ass hair.
A coconut. Be my little coconut.
Hold up. B. Bob Marley woke you up and saved you from getting sunburned?
Girl, yes. And then he climbed up a coconut tree, massaged my feet, carried me in his arms along the beach.
Oh, then what, girl? Then what?
Then he got frisky on me when I let him rub suntan lotion on me. I know good and damn well that the inside of my vagina can't get sunburned.
Dexter, you damn liar.
Me can't believe the biggest reggae star in the world invite us to a private rehearsal show before the One Love Peace concert.
First of all, I don't know you. Second, he invited me. Third, I'm not going. And fourth, who the f*** was talking to you?
If you're a woman who run a whole house, you're prody. When the last time you let a man buck up in front of your butt from the back?
He's right. When was the last time you felt love in the heart of your...
Well, it ain't been that long. 10 years, maybe?
Child, that thing probably don't even work no more.
My little just fine. I just don't love.
Well, me and Dexter with it all night long.
We do? Oh, yeah, we do. We fall in love at first. Or is it at first sight? Let me forget.
Sucking and for free is disgusting. Now, I taught you hoes to be classier than that.
Dynamite.
Dynamite, you might want to come and see this.
These Johns ain't had sex and all backed up with semen, and it's damn near turned them into horny, mindless demons.
What should we do, Cream Corn?
I don't know. Why are you asking me?
Because you and a monk are the only ones I know who can deal successfully without getting ass for long periods of time. And there ain't no monk here I could ask.
Well, we can't call the police. The motherfuckers are out there, too, dry humping the building and ready to screw.
What are we waiting for? Just kill the walking dead dead.
Green Corn, we can't do these motherfuckers no damage, because these zombie Johns got us at an unfair dick advantage.
Right in the palm of my hand, don't need the rubber. Let's go raw, I know you understand.
That's strange. Don't y'all know he ain't famous?
Hey, you like me song, eh?
I guess it sounded good, even though I had no idea what you were saying.
Honeybee, something special about you, Drewby. Your miss all that jump around and flash and turn upside down and flip-flop and skydive and all kinds of things. You know what me say?
I hope you got a Bob Marley the English dictionary, because your broken English is really broken. So I don't know.
You understand what me say now?
I guess I do.
Mais la page, je me suis plus, je sens, j'ai les dents, c'est gâté ma rage.
Caméra Silence avec Semaine Rouge. Donc, on continue. Alors, ça sera peut-être la dernière partie. Donc, l'interview de Stéphane Gouary sur Les héros du peuple sont immortels. La bande dessinée autour de la vie de Gilles Bertin, chanteur de Caméra Silence. Donc, on va écouter Semaine Rouge. Et commençons par une petite spéciale consacrée à Euthanasia Records. On va écouter Foutre et Kidnap. À l'instant, c'était Foutre avec Stupide Animal Je Suis. Et on poursuit, comme je disais, avec Kidnap Révolution. Alors, peut-être qu'on a passé ce morceau la dernière fois, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'écouter Kidnap. Kidnap.
Yeah. Hiroshima, but il est né, s'il est ça, regarde-le, descend du ciel. Regarde-le, descend du ciel.
J'ai l'impression que si je parle de ça, les gens vont me prendre pour un fou. J'ai presque peur d'en parler, quoi. Je laisse ma famille, je laisse ma femme, mon gamin, et je m'apprête à passer la frontière, quoi, et me rendre à la justice. Je fais un bond dans le passé, au siècle dernier, en 1980, et j'entreprends de raconter le pourquoi et le comment de ce qui m'a amené à me rendre à la justice 30 ans après, quoi.
À Toulouse, un braqueur repenti devant les assises aujourd'hui, 30 ans après le braquage de la Brinks.
Après une longue cavale, le dernier membre du gang vient de se rendre.
Il n'est plus le même homme. C'est parce qu'il considère qu'il n'est plus le même homme qu'il faut vraiment se réconcilier avec sa vie passée.
C'est le début de tout.
Ça s'adresse à tous ceux qui ont fait un petit séjour en prison.
C'est bon ?
Ouais, c'est top.
Parfait. Ce livre, et qu'est-ce qui fait que tu te replonges dans tous ces souvenirs qui datent des années 80, et est-ce que les souvenirs sont revenus direct, ou alors tu t'as rencontré du monde, qui t'a rappelé des concerts, qui
Non, j'avais quelques souvenirs, évidemment je n'avais pas tout en mémoire, je suis parti toujours de petits souvenirs, de moments de moments de vie. Et avec cela, j'ai restitué, j'ai recomposé, j'ai même quelques fois pris la liberté de réinventer des dialogues qui auraient parfaitement pu avoir lieu. Les dialogues sont justes, les moments sont justes, mais bon, évidemment les mots ne sont pas restitués pile poil, quoi. Je veux dire, bon, voilà, c'est le récit d'une époque aussi, hein, des années 80, la musique punk, le groupe, hein, Caméra Silence.
Voilà, c'est juste pour vous donner le contexte. Alors là, c'est le début d'un documentaire qui est passé sur France 2. Alors, je sais pas si c'est passé, je me souviens plus si c'est passé directement sur France 2 ou sur le website de France 2. En tout cas, ça s'appelle Punk, il était une fois Gilbertin. C'est de Eugénie Grandval. Alors, on va écouter un groupe qui s'appelle les Ladas, dans lequel a officié Stéphane Wary à la batterie. Come Live With Me. We'll be right back. Les Ladas avec une reprise des une reprise du coup des Sonics et le morceau c'est donc The Witch. Non, c'est pas une reprise des Witches. Et ben on va écouter justement l'original. Ne vous inquiétez pas, ça arrive.
She's an evil chick. Say she's the witch. She got a long black hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch. Where she wants.
Spécialement pour les absents de ce soir, de tout regard, mais que. Salut Gilles, salut Didier, salut à vous. Ce morceau leur colle à la peau, il s'appelle En Cavale. On ira au monde quand y a du monde. Quand y a du monde. Quand y en aura assez d'être au bistrot. Trop souvent tourné pour que ce soit une passion. Quand y en aura assez de rire de vie. Trop souvent planté devant le même horizon.
C'était Camera Silence en cavale. Et si on retrouvait Stéphane Wary maintenant, c'est peut-être le bon moment, non?
De faire quelque chose où on est dans l'univers du fait divers, un truc très noir, très polar, et en même temps de raconter ce qu'a été la scène punk de l'époque. Donc tout ça, pour moi, c'était l'idéal, quoi. Ça rassemblait toutes mes envies à ce moment-là.
Moi, je me souviens d'une interview de Benoît Destrier dans un forum qui s'appelle Une vie pour rien. On lui posait la question, et qu'est-ce qu'il est dit, parce qu'il y avait plein de rumeurs. Comme ça, oui. On est dans les années... milieu des années 2000, je crois. Et il dit, je sais pas, il y en a qui disent qu'il est en Amérique du Sud, il y en a qui disent qu'il est mort, etc. Donc c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'ai vu l'histoire qui est arrivée, je me dis, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant.
Bah oui, c'est hallucinant. Et je pense que c'est aussi, là, maintenant, la réception du livre, hein, les témoignages, c'est toujours ça. J'entends les témoignages de personnes qui découvrent cette histoire. Parce que, évidemment, dans le milieu punk, l'histoire était connue et c'est pas le livre qui va leur apprendre quoi que ce soit. En revanche, il y a des gens qui vont découvrir cette histoire avec cette bande dessinée, mais ils sont tous stupéfaits. Et voilà, oui, elle a quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle au-delà, justement, du cercle des fans de punk rock.
Moi, ce qui m'a étonné, enfin bon, c'est pas que la BD, mais c'est en général, c'est que moi je pensais que Camera c'était connu que en France.
Oui,
c'est connu internationalement.
Ah, oui.
Mais moi, il y a un type qui est un grec qui fait des bouquins sur le rock, vers le punk, qui cite le groupe, je lui dis, mais comment tu connais ça? C'est connu. Ouais. Ça, c'est. Il y a un hommage par des groupes russes, il y a un hommage par des groupes espagnols. Bon, espagnols, ça m'étonne pas, parce que les Sibelius, par exemple, ils en parlaient. Mais
c'est sûr que ça enregistre un truc.
Normalement, oui. Oui.
C'est bon.
Il y a 40 minutes qui sont écoulées.
Ok. Oui. Oui, moi j'ai
et ça m'est déjà arrivé à un groupe, j'étais persuadé que ça enregistrait, et au bout de 20 minutes, j'en trouve rien du tout. Et ça m'a tué, ça. Ben, j'ai tout rattrapé de mémoire, j'ai réécrit quand j'ai fait l'émission. Mais... J'ai eu pas mal de surprises avec ces trucs-là.
Caméra.
Ah oui, par rapport justement à l'histoire de Gilles Bertin, est-ce que... Bon, c'est périphérique comme question, mais est-ce que vous êtes intéressé justement à la scène punk, enfin rock en général, espagnole et portugaise, ou vous avez...
Non. Ouais, non, j'ai pas vraiment creusé ça. C'est pas une scène que je connais très bien. Et je voulais pas trop m'éparpiller. Je me suis concentré sur ce qu'on appelle la Ruta Destroy, enfin ces boîtes de nuit qui diffusaient de la musique à l'époque et de façon enfin, assez pointue. Donc là, pour le coup, j'ai un peu essayé de réunir de la documentation, réunir des témoignages de gens qui ont fréquenté toutes ces boîtes de nuit. Mais après, la scène rock, non, pas vraiment. Non.
Alors, puisqu'on parle d'Espagne, on pourrait vous passer le morceau Espoir Déçu, d'ailleurs, de Camera ou bien Guardia Civil de Wunderbar, mais on va démarrer avec Decibelios Viento de Libertad. Ceux qui étaient au concert au Gibus en 2016 sauront de pourquoi je passe ce morceau. Donc, c'était Wunderbar, Guardia Civil, donc concert de reformation en 2005 au Lemovis Antifa Festival. J'y étais. Et on poursuit avec Espoir Déçu, de qui vous savez. C'est donc Caméra Silence, Espoir Déçu. Avant de passer au quatrième morceau, je voudrais faire quelques précisions, et, puisque moi j'ai appris des choses quand même, sur Torpedo. Alors, il faut que je retrouve la page. Bien entendu, je l'ai perdue. Torpedo, en fait, donc c'est le nom de la boutique de Gilles en Espagne. Et ça vient d'un héros de bande dessinée argentin. Alors, j'ai trouvé ça tout à l'heure et je l'ai reperdu. Attendez, je vais retrouver. Ah oui, je devais vous passer autre chose en plus. Ben, profitons. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Espagne, mais c'est juste pour donner aussi une idée de l'époque, les années 80. On va écouter, on va dire que c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quelque part. Donc on va écouter les Béarris Noirs, Le Renard, version live de 86. Alors, juste pour rappeler aussi que, bon, bien entendu, les groupes ont évolué à la même époque, dans les au début des années 80. Enfin bon, Béruriers Noirs arrivent en 83, 84. Hein, avant, c'était les Béruriers, c'était encore autre chose. Mais les groupes se sont croisés au moins une fois en 85 au festival de, à Port-Bail qui s'appelait Quand l'Europe s'éveillera, je crois. Il y avait aussi les Trotskids, il y avait des groupes français, des groupes étrangers, il me semble qu'il y avait des groupes anglais. Et je crois que le management de Caméra avait organisé une venue de Béruriers Noirs à Bordeaux. Il n'y avait pas eu beaucoup de monde à l'époque, c'était, je pense que c'est pareil, ça devait être 85-86 par là. Il faut demander aux spécialistes comme David de Tanasi ou à l'entourage de Caméra Silence pour plus de précisions. J'ai retrouvé ma page sur Torpedo. Alors, Torpedo, donc, c'est une bande dessinée argentine. Alors, je vous donne un début de résumé, parce que ça a été réédité chez Bonne Question. Je ne vois pas l'éditeur, là. Enfin, bref, ça a été réédité et il y a une intégrale. Alors, le début du résumé, donc New York 1936, Lucas Torelli alias Torpedo sicilien de son état, Lusa Gachette à qui veut éliminer un rival, une femme gênante ou un voisin trop curieux. La pitié est un mot inconnu pour lui, seul l'argent peut adoucir ses mœurs quand il coule en abondance. L'époque est propice à son petit commerce et ce ne sont pas les petits séjours en tôle qui pourront altérer son désir de flinguer à tout va. À défaut de ne pouvoir être son ami car il n'en a plus, prier pour ne pas être son ennemi. Voilà. Donc, il y a 15 albums qui sont sortis. Et donc, ça fait 678 pages. Vent d'Ouest, voilà. Vent d'Ouest, donc, a réuni donc, 60 épisodes de la longue carrière d'un tueur à gages qui n'hésite pas à trucider père et mère pour une poignée de dollars. Voilà. Pour Torpedo, pour avoir une idée de qui c'est. Donc, c'est sorti dans les années 70-80, si je me souviens bien de l'interview. On revient donc... Avant de revenir à l'interview, il y avait un autre morceau à passer. Paralysis Permanente, un peu de post-punk. Paralysis Permanente Unidos. Et
mon père est assez...
Et on revient à l'interview maintenant.
Aussi, enfin, par rapport à son histoire, que dans le bouquin, il ne en parle pas beaucoup, parce que de toute façon, lui, il devait être incognito aussi.
Oui.
Je pense qu'il n'allait pas dire tiens, je vais faire les groupes punk, venez là, parce que moi, je connais.
Ouais, je pense qu'il y a de lui... Oui, lui aussi, c'est volontairement un peu éloigné de toute cette scène.
Alors, vous dites que c'est un grand fan de BD.
Oui.
Alors, à part Fuite Glaciale, justement, qu'est-ce qui le branchait ?
En fait, on avait parlé de Torpedo, parce que Torpedo, c'est le nom qu'il a donné à son magasin de disques à Lisbonne, et c'est un héros de bande dessinée argentin qui est assez génial. Moi, j'adore, hein, c'est vraiment une bande dessinée qui m'a marqué, qui est très... assez violente, très politiquement incorrecte.
Ça date de quoi?
Ça date des années 80, 60, ouais, 80.
Ah oui, donc...
Oui, complètement. C'est une bande dessinée avec un ton très noir, très polar. Donc on a parlé de ça, on a parlé de métal hurlant. Mais sans surprise pour moi, parce que c'est générationnel. À l'époque, rock et bande dessinée, ça allait vraiment ensemble. Et notamment.
Bah, je pense aux enfants du rock avec Dionnet.
Exactement, voilà, c'était ça. Ça il y avait cette revue qui était très importante. Donc voilà. Et je sais que c'est pas lui qui me l'a dit, c'est Cécilia ensuite quand on a échangé. Donc Cécilia, sa compagne, me disait que quand ils ont déménagé, ce qui était le plus important, c'était sa collection de vinyles et sa collection de bandes dessinées. Il y avait, c'est, voilà, c'est ce qui avait le plus de valeur. Et je pense que pour ça, je me reconnais tout à fait là-dedans. Enfin, moi, je suis pas de la même génération, mais j'ai connu ce même. Pour moi, rock et bande dessinée, c'était cette contre-culture où qui dialoguait et qui faisait sens. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. La bande dessinée est devenue un truc hyper institutionnel. C'est un peu un télo et tout. Le rock, bon, c'est plus non plus la même, ça a plus la même dimension. Donc, mais à l'époque, c'était c'était les mêmes personnes qui faisaient de la musique. Et
je pense à Rocardi, je pense à comment il s'appelle, Chester.
Oui, bien sûr.
Une bande dessinée avec un skin. Je ne sais plus comment ça.
La petite coupon. Non, il y a
Pierre-Moi, Bloody.
Il y a Bloody. En ski, bah, c'était tout d'alto.
Non. Enfin, non, c'était pas alto, je crois que c'était quelqu'un d'autre. Je me souviens plus. C'est. Alors. Qu'est-ce qu'il est là alors, question. Je ne vais pas dire dystopie, mais utopie. S'il était encore là, est-ce que vous pensez que. Parce que j'ai entendu parler de ça, que Caméra Silence se serait reformé et aurait accepté, je sais bien accepté, de jouer au Hellfest. Par rapport à l'image du festival, par rapport à certains.
Franchement, je ne saurais pas répondre à leur place. Bon, de toute façon, la reformation, c'était couru d'avance que c'était pas possible. C'est-à-dire que Gilles était quand même pas en très bonne santé et aller.
Il n'y a plus la pêche.
Voilà. Donc faire un concert au Elf. Non, je ne sais pas. Mais pour moi, oui, alors on est. Je ne sais pas. Et puis, mon sentiment, c'est que. Non, leur place n'est pas là-bas, mais bon.
J'aurais tendance à dire ça.
Ils n'auraient pas fait.
Oui.
Alors. Trop antinomique avec eux.
Bah, c'est ça.
Bah, c'est pour ça que je pose la question.
Oui.
Alors après, comme toujours.
Que je pense le souci, c'est que. À Ludwig, à tout
ouais,
ça.
Mais c'est rien à voir, ils étaient en forme. Comme une insecte, ils étaient en forme.
Oui, mais ils font un peu trop de weed. Au niveau de l'éthique.
Ouais, mais après, l'éthique, ils s'en foutent, hein. Il y a l'argent avant tout. Sauf que Caméra a une éthique au-dessus de ces choses-là.
Oui, je partage l'avis de David. C'est pour ça, mon sentiment, c'est qu'ils ne l'auraient pas fait. Voilà.
Le seul projet qu'ils avaient, parce qu'ils en avaient parlé, de se reformer, Gilles n'avait pas mis son veto. Mais il avait des gros soucis d'argent, il aurait pu se faire de l'argent avec ça, sauf qu'il se sentait plus légitime. C'est-à-dire qu'il disait, bah, le Gilles des années 80, c'est pas le Gilles des années 2010, en tout cas 2020. Et qu'il n'avait pas la force, et il pouvait pas, ouais, mais il pouvait pas, il se sentait pas de chanter pour la gloire ou des choses comme ça, sans avoir la pêche. Benoît, la même chose. Il se sentait plus. C'est plus la bonne période. Et après, voilà. C'était fini, Caméra.
Moi, c'est une chose que j'ai.
Ils ont failli faire un studio, c'est tout.
Ouais. C'est une chose que j'ai ressentie très fort en échangeant un peu avec lui, puis après en échangeant avec son entourage, c'est que Gilles n'était plus le même homme, c'est certain. Alors, comme tout le monde, bien sûr, en vieillissant, on n'est plus les mêmes, mais enfin, quand même, pour faire cette musique-là de façon sincère, on ne peut pas le faire pour de faux. Et là, ça aurait été un truc complètement une posture. Et c'est tout l'inverse de Caméra Silence, qui a toujours refusé les postures. Là, vraiment, ça me semble complètement aberrant.
Non, mais c'est exactement ça. Ils étaient tiraillés parce qu'il y a les soucis financiers de Gilles, mais ils auraient pu jouer pour eux en répétition, faire une répète, mais même ça, ils ne le sentaient plus. Benoît, ça faisait 30 ans qu'il avait arrêté la musique. Il a un G-son, mais jamais il a voulu rejouer. Oui. Il a fait une participation avec les Cominternes pour leur faire plaisir en poussant le chant, mais c'est tout. Et là, se retrouver devant...
Alors, on va couper David et on va essayer de trouver justement ce morceau de donc Comintern qui reprend pour la gloire. C'est totalement improvisé. Hein. Vous inquiétez pas, ça arrive. En plus, on avait prévu de passer d'autres morceaux de caméra. Si on a le temps, on les passera. Sinon, bah, ça sera soit pour une prochaine fois, soit je pense que vous pourrez les découvrir par vous-même. Puis c'est pas comme si on n'avait jamais passé de caméra silence dans cette émission, n'est-ce pas ? Voilà, c'était Comintern pour la gloire sur le mini-album d'une même voix avec 6 titres.
Tout le monde en un concert que tous les gens qui sont réunis sur toute une ville de groupe, c'était même pas... Et en plus, ils ne sentaient pas... Ils ne sentaient pas de pouvoir jouer devant autant de monde.
Alors, question technique pour la BD... Est-ce que Vous êtes appuyé en majeure partie sur les photos existantes, enfin les photos les plus connues, parce qu'en allant à voir l'expo, j'ai vu des trucs que moi je connaissais pas. Donc est-ce que vous êtes appuyé sur les photos les plus connues du groupe, ou alors vous avez mis votre sauce et vous avez fait, c'était surtout un clin d'œil de reproduire par exemple tel truc
Bah, c'est les deux, c'est-à-dire que bien sûr je me suis appuyé sur un certain nombre d'archives. Et pour le coup, j'essayais de coller relativement fidèlement à ces archives, même si je prenais des libertés, évidemment, pour le, par souci de narration. Mais bon, avec le souci aussi de demander les droits pour ça, parce qu'on ne peut pas reproduire des photos sans l'accord du photographe ou de la photographe. Donc il y avait ça, mais ces photos, c'est quoi ? Il y a 10-15 images qui sont concernées dans l'album, le reste c'est de la recréation. Donc la recréation, je peux aller piocher dans des images de concerts qui ne sont pas des concerts de Caméra Silence, comme je peux aller piocher dans mes souvenirs. Enfin après, c'est une espèce de cuisine pour faire récit, forcément il faut aller convoquer plein de sources différentes. Et mixer tout ça. Maintenant, quand les photos un peu iconiques, je les représentais, je savais que j'allais faire plaisir aux fans. Ça me semblait important qu'elles figurent dans l'album, parce que c'est des entrées, enfin, ça permet aussi de valider le récit, parce qu'on se dit, effectivement, ça s'est passé, là, il y a la photo. Donc ça donne quelques ancrages dans ce qu'a pu être la réalité du groupe, mais ça peut pas faire, ça peut pas être autre chose que ça. Alors après, il faut amener du lien et donc il faut travailler avec d'autres sources.
Moi, je veux bien que vous puissiez. Merci.
Est-ce que vous connaissez un fournisseur qui s'appelle Stéphane Delevac, qui a un fournisseur qui s'appelle Rat Party?
Non, pas du tout.
Parce que lui, justement, c'est aussi rock, punk et BD.
Rat Party, je connais pas. Non.
On arrive à la fin. Alors, qu'est-ce qui... les projets futurs.
Le projet futur, je viens de terminer d'écrire le scénario de mon prochain livre. Et j'ai commencé à le dessiner. J'ai fait une planche la semaine dernière. C'est vraiment... je suis dedans. Là, ça va être un livre compliqué aussi, très personnel, où je reviens sur... est-ce que c'est un livre autobiographique? Je ne sais pas comment appeler ça... Je parle, de ce que j'ai pu vivre, ce que mes enfants ont pu vivre. Donc, c'est des expériences un peu difficiles, C'est encore un peu compliqué d'en parler, mais je parle de maltraitance, de famille dysfonctionnelle, de choses comme ça. Et de maladie mentale. Et je parle de maladie mentale aussi, enfin, de trucs. Et c'est un truc. Qui était très difficile à porter pour moi, j'ai mis beaucoup de temps, et là, c'était le bon moment, j'ai suffisamment de distance par rapport à ça pour m'attaquer à ce récit. Donc, ça, pour le moment, ça s'appelle Le Masque. Et ce sera chez, avec la même éditrice avec qui j'ai travaillé pour Les Héros du Peuple Sortis Mortels, mais dans la collection qu'elle vient, enfin dans un label qu'elle vient de créer qui s'appelle Charivari. Donc c'est le groupe d'Argo, mais un label un peu à part. Pour développer justement des choses un peu atypiques.
Merci.
Merci à toi.
Vous êtes trouvé alors.
Alors, c'est trouver des choses et trouver un endroit.
C'était nôtre.
Voilà, fin de l'interview. Alors, heureusement qu'on arrive à la fin, parce que là, on a les bénévoles à tour de vue commencent à affluer et à discuter. Vous aurez bien compris, donc alors qu'au début on était isolés. Mais bon, c'est la vie d'un festival aussi, hein. c'est la vie des coulisses. On a écouté Caméra Silence, n'est-ce pas ? On va en remettre une couche avec Caméra Silence, en essayant de retrouver ce que j'avais prévu d'ailleurs. Ouais, déjà, je me trompe de facette. Il me semble que j'avais prévu, si ce n'est Caméra Silence, du moins. Ah, mais oui, voilà. On va commencer par le groupe Stalag. Donc, on reste à Bordeaux. Sauf nécessité.
Répression, le grand prison. Des portes de troublés, l'ordre instauré. Tapage nocturne, à titre posthume, y'a rien. Que j'arrête et quoi que je fasse, jamais rien qui se passe. Quelquefois au coin de la rue je ramasse. Obsession, érection, masturbation. Oh, oh, all right. Où que t'arrives, quand que tu passes, jamais rien qui se passe. Quelquefois au coin de la rue tu entends, tu entends, tu entends. Défense, 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 sauf nécessité. Salut.
Thank you.
C'est donc Caméra et j'ai oublié de passer El Camino, donc un autre groupe où sévit. Non, Caméra, c'est fini. Voilà, c'est fini Caméra pour l'instant. Donc un autre groupe où sévissait Stéphane Wary. On va écouter donc de El Camino, Give Me a Little Hoo Hoo. Yeah. Ça, c'est un autre morceau. Alors oui, en fait, là, j'ai été un peu perdu parce que je cherchais le nom d'un groupe quand j'entendais pas mal sur béton dans les années 90. C'était Double Nelson. Alors, je me souviens même plus de comment sonnait, à quoi ressemblait musicalement Double Nelson, mais je suppose que c'est cette période-là. Donc, on pourrait éventuellement comparer au moins sur une échelle temporelle. Même spatio-temporel, puisque Double Nelson vient de Nancy, donc El Camino de Strasbourg et Double Nelson. C'est bientôt la fin, on fait les news vite fait. Est-ce qu'on prend un générique pour ça? Allez, on prend un petit générique pour ça quand même. Un petit party at Ground Zero de Fishbone. Pour faire croire qu'on a potassé un peu, vous comprenez, hein, qu'on a bien bossé ces news alors que pas tant que ça en fait. Alors, je vais quand même en parler, j'avais décidé de boycotter un peu l'info. Donc, George Clinton et ses acolytes vont célébrer les 50 ans de la sortie de Mothership Connection, qui était sortie en décembre 1975, avec un concert, comment dire, une version symphonique, c'est-à-dire qu'il y aura le groupe et il y aura un orchestre symphonique, donc dirigé par Ray Chou. Ça sera le 31 janvier 2026 à l'Opéra de Detroit. Voilà. Sinon, un coffret consacré à Quincy Jones sera disponible le 21 novembre 2025, le coffret ultime, on va dire, puisqu'il y aura 20 CD. Ça dure, ça fait 22 heures d'écoute. Il y a 406 titres. Et il y a notamment des invités comme Snoop Dogg, etc. Mais pas que. Le coffret s'intitule « The Legacy of Quincy Jones, Original Soundtracks, Jazz, Pop, Funk and Hip-Hop Albums, Original Songs and Covers ». Sinon, Sadistic Intent sera à l'affiche du Brutal Assault, donc qui a lieu du 5 au 8 août 2026 à Josefov Fortress en République Tchèque. Alors, on espère qu'il y aura moins de groupes un peu colotés à ce festival, n'est-ce pas? Oui, je veux parler du Metal Threat où vous avez eu. Alors, je vais en parler. Ben, parlons-en tout de suite d'ailleurs. Parce que il y a Dead Congregation qui s'est fait un peu secouer. Bon, ils ont donné un contrat. Ils ont répondu. Il y a Master aussi qui se fait secouer. Sur le net, je précise. Hein. Alors, apparemment. Donc, puisque on a Graveland, Argos Lent et Gromelinski qui sont arrivés sur l'affiche. Apparemment, ce sont des ajouts de dernière minute, genre 2 à 3 semaines avant le festival. Et ces groupes auraient été rajoutés, entre autres, parce que certains groupes étrangers avaient des problèmes de visa, donc n'ont pas pu se rendre aux États-Unis pour le festival. Donc, pour compléter l'affiche, donc, ils ont pris donc, ben, ces trois groupes-là. Et Master, par exemple, ou Dead Congregation, étaient déjà sur l'affiche avant. Alors, soit ils se retiraient, soit ils confirmaient. Alors, Dead Congregation, dans leurs mots, ils disent qu'en fait, ils sont en contrat avec un tourneur là-bas, aux États-Unis. Et en gros, s'ils se retiraient, déjà, ils perdaient leur argent. Et puis, en plus, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir revenir aux États-Unis pour tourner. Donc, ils ont pas annulé leur présence au Metal Threat, mais ils précisent bien que eux, ils ne sont pas pour l'idéologie White Supremacy ou NS. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire là-dessus, entre autres. Sinon, Relics from the Crypt, sous label de Dying Victims Production, va rééditer Tears, qui est le troisième album des thrashers japonais de Sacrifice. Il y a en effet un Sacrifice au Japon. Et pour terminer, les Mexicains de Semican, donc Power Thrash Folk Metal, sortiront le 31 octobre leur quatrième album. Alors, accrochez-vous pour le nom. Ukuk Unkill Mayakage. Voilà. Je ne garantis aucune prononciation. Et donc, ça sort chez M Theory Audio. Et on va terminer avec Gilles Bertin.
Une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre première histoire particulière de l'année 2019, Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire nous ont raconté l'histoire de Gilles Bertin. Avec deux autres punks, en 1981, ils créent un groupe de musique Camera Silence à Bordeaux et enregistrent leur premier album. Gilles Bertin est chanteur et parolier. Des concerts, le rythme des nuits, de la drogue commencent à le faire glisser sur la pente des délits. Ils seront mineurs au début, mais très vite, il va passer à la vitesse supérieure. Gilles Bertin va passer de braquage en braquage jusqu'au 27 avril 1988 avec le braquage de la Brinks à Toulouse qui va totalement bouleverser sa vie. Tout de suite, le second épisode.
À Toulouse, un braqueur repenti devant les assises aujourd'hui, 30 ans après le braquage de la Brinks et après des années d'exil en Espagne, l'homme s'est rendu pour solder son passé et ne plus mentir à son fils. Récit signé Frédéric Bourgade.
En 1988, Gilles Bertin a 25 ans. Il est malade du sida, il pense qu'il va mourir bientôt et il participe à un braquage, celui de la Brinks.
Pour survivre, pour ne pas devenir complètement cinglé, j'étais obligé de tout. J'ai laissé ma femme, ma famille, un enfant en France, mes amis, une vie. Hein, j'étais musicien, etc. Bon. Et je me suis amputé de tous ces souvenirs pour redémarrer, pour recommencer une vie, en quelque sorte. Donc je n'y pensais absolument plus. Ça ne faisait, ça, voilà, j'avais fait le vide. Quelquefois, j'en rêvais, etc. Évidemment, on ne peut pas. On ne contrôle pas ses rêves. Hein. Donc, de temps en temps, ça revenait. Mais justement, lorsque ça revenait en rêve, je passais une mauvaise journée. Hein. Mais après, boum, je faisais abstraction et je vivais le présent. Voilà. C'est la seule manière de s'en sortir.
Gilles Bertin, une vie en sursis. Deuxième partie. La cavale de Didier Ballet. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire.
En 2016, lorsque je suis arrivé à Toulouse, j'ai commencé à écrire d'abord sur mon portable, mon arrivée. Dans la perspective de signer un contrat. Faut pas se raconter d'histoire, j'avais besoin d'argent en arrivant ici.
Gilles Bertin, octobre 2018.
Je laisse ma famille, je laisse ma femme, mon gamin, et je m'apprête à passer la frontière quoi, et me rendre à la justice. C'est le début de tout. Voilà, après ce moment, après m'être rendu à la justice, je fais un bond dans un saut dans le passé, au siècle dernier, en 1980, et j'entreprends de raconter le pourquoi et le comment de ce qui m'a amené à me rendre à la justice 30 ans après, quoi. Dans ma vie, il y a eu la drogue, donc c'est pas des moments faciles à expliquer. Après, il y a eu la prison, c'est pas facile à expliquer non plus. La naissance de mon premier enfant, devoir le laisser, devoir, une fois que j'étais parti en cavale, comment ai-je pu m'amputer de toute cette vie et passer à une autre.